Éric Pictet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur du bureau de Paris de Musinic & Co. On va parler avec vous du marché du crédit, notamment du high yield. Avant d'y revenir précisément, sur ce marché des obligations, le marché de taux, on a vu quand même des évolutions depuis le début d'année. Ça n'a pas été forcément effectivement sur les obligations d'État, notamment. Il y a eu certaines surprises. Comment vous observez ce marché? On a vu très clairement que les marchés actions les investisseurs étaient revenus sur les marchés actions. Pour les marchés de crédit, comment ça s'est passé?
Ben c'est un peu le cas, vous avez deux choses. Vous avez le marché américain qui est en gros à 4 ou 5% depuis le début d'année, et le marché européen qui est à 10-12. Et pourquoi à 10-12? Pour deux raisons. Un, parce que l'année dernière, c'était effectivement extrêmement difficile avec ce qui s'est passé sur l'euro. Donc il y a un effet rattrapage. Et le fait que la Banque centrale ait lâché avec le TLTRO 1 et 2 fait qu'en fait, il n'y a plus la crainte de liquidité. Donc il y a eu un rebond assez spectaculaire. Mais sur un an glissant, en fait, les deux marchés ne sont pas très très éloignés l'un de l'autre.
Ça a été vraiment là aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé pour le marché action, mais pour les marchés de taux et marchés de crédit, ce qu'ont fait les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, ça a été déterminant pour le changement d'orientation des investisseurs.
Oui, ça a sécurisé le fait que la BCE serait là, en fait, pour apporter des liquidités. Ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des problèmes derrière. Parce qu'on a allégé le problème monétaire, mais on a toujours le problème fiscal, les problèmes de la dette, qui est toujours là et qui va finir par revenir un jour ou l'autre.
Alors, du côté des différentes classes d'actifs, hein, obligations corporate ou high yield, il n'y a bien entendu pas eu le même comportement. C'est lié à quoi, justement?
Entre les deux, il y a aussi un effet duration. Il y a aussi un effet flux. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu des flux très importants de l'ordre de 15, 17, 18 milliards de dollars dans les fonds aux États-Unis. On ne peut pas parler aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des institutionnels. Donc ça, c'est un flux important de l'ordre de 3, 4 milliards d'euros en Europe, alors que le marché est plus petit. Ce qui est difficile, ce qui est particulier cette fois-ci, c'est qu'en fait, vous avez eu un tiers, des nouveaux flux qui sont allés dans les ETF. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Et donc, ça influe également sur la gestion, puisqu'en fait, c'est les plus grosses émissions qui, en fait, font jouer par les ETF sur la liquidité. Et ce n'est pas un marché, j'allais dire, qui est vraiment propre, qui est vraiment fait pour les ETF, puisque c'est un marché qui est over the counter, donc c'est un marché sur lequel les billets Nasdaq ont une influence importante sur la performance. Mais les flux, encore une fois, ont beaucoup joué. Néanmoins, quand même, il y a une différenciation toujours au niveau des nouvelles émissions sur les bons et les mauvais crédits. Donc on n'est pas dans une bulle aujourd'hui.
Alors, on peut dire aussi, hein, bien entendu, que la situation du cas grec et des cloches bourdonnant des CDS a joué aussi. Donc, il y a eu avant cette résolution de la situation grecque des craintes et ensuite à nouveau une confiance qui est revenue.
Oui, alors encore une fois, cette confiance, il y a toujours la dette d'État qui est toujours là. Donc en fait, quels sont les grands risques en fait dans la classe d'actifs? Parce qu'en fait, il y en a trois. C'est un risque de récession qui est toujours là. Parce que par nature, on peut avoir une activité qui baisse. Néanmoins, il faudrait que cette récession soit relativement importante parce que les sociétés sont dans un état exceptionnel. On n'a jamais eu autant de cash dans les sociétés. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque est un risque de déflation. Ce risque de déflation est quasiment exclu aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où là, le mandat des banques centrales est fait que surtout pour la croissance. En Europe, il est toujours un peu là, puisque l'inflation est poussée surtout par la cherté des matières premières et le prix de l'inflation. Et puis, le troisième risque, c'est un risque sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, qui sont des risques exogènes. Les risques exogènes, ce sont des risques qui ont toujours existé, essentiellement des risques géopolitiques, et on voit que les risques géopolitiques aujourd'hui ont tendance, j'allais dire, à augmenter.
Alors c'est effectivement l'enjeu peut-être de cette année 2012, hein, mais on ne peut pas faire pari là-dessus par définition. Donc il faut vivre avec. Du côté des perspectives, toujours, vous dites qu'on va peut-être être dans une période assez longue où il faudra que les investisseurs aillent chercher du coupon. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, c'est normalement d'ailleurs ce que la classe high yield d'ailleurs donne, c'est le coupon. Hein, finalement, c'est quelque chose qui est un investissement stratégique et non pas tactique, un investissement de long terme. Et on le voit d'ailleurs, beaucoup d'institutionnels maintenant commencent à allouer des petites sommes, des petits pourcentages, 1, 2, 3% de leurs assets. Mais quand vous avez une compagnie d'assurance qui a 50 milliards, ben quand on met 1%, c'est 500 millions qui rentrent. Donc c'est de l'argent. En parallèle, vous avez aussi beaucoup de sociétés qui émettent maintenant, puisque même si la Banque centrale a donné des liquidités aux banques, les banques continuent un peu à restreindre un peu le crédit et les sociétés ont des craintes et continuent à émettre. Il y a eu, depuis le début de l'année, 93 milliards d'émissions. C'est 20% de plus que l'année dernière.
Du côté des perspectives, toujours, on a vu donc ces banques centrales inciter les investisseurs à quelque part reprendre du risque côté marché action. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, ils vont peut-être à nouveau diversifier leurs actifs? Parce que là, on les a vus aller sur ces marchés actions, mais ça aura un temps.
Bien sûr. Alors, ce qui est certain maintenant, ce qui est assez drôle d'ailleurs, hein, c'est que le risque de duration recommence à revenir. Hein, il y a 3 ans, on parlait du risque à la fois déflation, inflation, on ne sait pas où ça allait tourner, mais on pensait que les taux allaient monter. Qui aurait dit, avec, il y a eu le politique du twist, que l'année dernière, les taux américains du 10 ans seraient passés de 3 à 2. Personne. Bon, maintenant, on a plutôt tendance à ce que ça augmente, mais enfin, l'année dernière, on disait la même chose. On a vu le 10 ans américain passer en gros de 1,80 à 2,30. Ou de 1,90 à 2,30, de manière très rapide. Donc la classe d'actifs, que ce soit sur des produits à duration courte ou neutre, puisque la duration est autour de 4, est également une bonne protection contre ce risque de duration.
On est plus quand même effectivement sur, à terme, une hausse de taux, bien entendu. L'impact sur l'écart de rendement va jouer effectivement sur le...
Un peu, mais aujourd'hui, avec la baisse des spreads qu'on a eu depuis... En fait, vous avez des taux, des rendements qui sont au plus bas historique. Mais vous avez des yields, vous avez des spreads qui ne sont pas au plus bas historique, qui sont même au-dessus encore de la moyenne. Alors ce qui risque de se passer aujourd'hui, c'est qu'une réduction des spreads par la hausse des taux. C'est-à-dire que la hausse des taux ne va pas entraîner une hausse de spread, mais ça va se compresser par le dessus. Donc en fait, vous allez avoir une petite compensation, mais il ne faut pas attendre beaucoup aujourd'hui de gains en capital et d'avoir un ongoing. Donc vous allez avoir quelque chose qui va se balader entre 6 et 8% sur les 12 mois qui viennent, sauf choc externe.
Alors, si on termine sur les perspectives, comment on va naviguer justement sur cette classe d'actifs? Quelle est la meilleure façon, je dirais, de naviguer sur cette classe d'actifs, justement?
Ben, quand on regarde l'historique de la classe d'actifs, c'est que quelqu'un qui a investi, je parle sur nos fonds, mais c'est en gros sur la classe d'actifs, fin mai 2007, les spreads étaient au plus bas, c'est-à-dire en gros, donc la classe d'actifs au plus haut, eh bien les gens ont gagné entre 25 et 32% net. Donc quelle que soit la période, c'est vraiment une classe d'actifs qu'on peut considérer buy and hold. Pour que ça se passe mal, il faudrait vraiment qu'il y ait un choc externe important et les autres classes d'actifs souffriraient encore plus.
Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Eric Pictet. Je rappelle que vous êtes donc directeur du bureau de Paris de Musinic & Co.
Merci Didier.